Bonsoir Backstreet, bonsoir le chat. Première tentative d'imitation de Jean raté. Bonsoir le public. Bonsoir le chat, comment ça va? Merci d'être là, merci à toutes et à tous d'être là, d'être présents, de soutenir cette émission. N'oubliez pas que grâce à vous, nous pouvons être indépendants financièrement. Et c'est quelque chose dont on va parler ce soir, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Vous pouvez donner à cette émission pour que Backseat puisse perdurer, pour que Backseat puisse enfin tenir jusqu'à la fin de la saison. Donc donnez. On a organisé le truc par palier, on va vous montrer une vidéo ce soir pour vous expliquer davantage des choses. Bref, donnez pour cette émission. Merci d'être là, merci d'être aussi nombreuses, aussi nombreux. Nous allons ce soir parler des inégalités de genre, pour changer un peu. Mais face à la thune, face au pognon, c'est assez important, on n'en parle pas suffisamment. Donc un before un peu spécial. Comme vous le savez, les before, on le fait aussi pour se faire kiffer et parler de sujets qui nous intéressent. Donc nous avons la chance ce soir d'accueillir... Ah, j'ai oublié de vous dire un truc important. Merde. Oui, donc je n'ai pas raté mon coup d'État. Mon coup d'État a fonctionné. C'est un putsch ce soir. Non, Jean Massier, comme vous le savez certainement pour certaines et certains, est malheureusement souffrant et ne peut pas être présent ce soir. Donc il m'a confié cette énorme charge qui est de présenter l'émission à sa place. J'espère pouvoir être à la hauteur et on compte sur vous aussi pour qu'il puisse nous entendre depuis chez lui. Et on lui envoie plein de bisous, mais de loin, parce qu'apparemment il a un truc contagieux. Donc voilà. Il viendra nous faire un petit coucou en début d'émission pour voir un peu, pour prendre la température, voir si tout va bien. Voilà. Et puis voir surtout s'il est encore en vie, ce qu'on espère fortement. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour ce before. Donc ce soir, nous allons parler, comme je vous le disais, des inégalités de genre face à l'argent. Pour parler de ce sujet, nous avons l'immense plaisir de recevoir Insaf El Hassini, Héloïse Boll et Françoise Briet. Françoise Briet qui doit nous rejoindre en duplex, si tout va bien. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Françoise, comment allez-vous?
Très bien, merci de votre invitation.
Avec grand plaisir. Françoise, je vais le dire, vous êtes donc directrice générale de la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit précisément?
Alors, la Fédération Nationale Solidarité Femmes est un réseau de 78 associations, qui accompagnent des femmes victimes de violences, en particulier conjugales. Et la Fédération a créé et gère depuis 1992 la ligne d'écoute nationale 3919 Violence Femmes Info.
Merci beaucoup. Françoise, si vous êtes là ce soir, c'est aussi pour parler des violences économiques. Et à ce sujet, la FNSF, c'est votre petit nom, donc la Fédération Nationale Solidarité Femmes, son acronyme FNSF, a lancé un clip de campagne, une campagne de sensibilisation aux violences économiques. On va regarder le clip avec vous et ensuite on reviendra sur cette campagne. Vous allez nous expliquer un peu pourquoi vous avez décidé de lancer cette campagne.
Pour leur couple, ils ont choisi iMoney.
Ah, c'est génial. Dès que ma femme doit faire un achat, je suis alerté.
C'est vraiment pratique. Avec ça, c'est moi qui décide des achats de ma nana.
Pour garder un œil sur l'argent de ma femme, c'est top.
Je vois sa demande de dépenses immédiatement et je peux l'accepter directement. Ou pas.
Là, c'est pour une pizza pour les gamins.
Je peux transférer toutes ses allocations direct sur mon compte.
Ah bah tiens, elle veut payer son abonnement de bus.
Non mais y a pas moyen, je refuse. Non mais sérieux, elle peut très bien faire à manger, non?
Il va falloir qu'elle soit très gentille avec moi ce soir si elle veut que j'autorise son paiement.
De toute façon, on s'aime. Donc ce qui est à elle est à moi.
iMoney n'existe pas, mais les violences économiques, si. Contrôle des dépenses, privation de ressources, chantage économique. Les violences économiques sont des violences conjugales. Depuis 30 ans, le 3919 vous écoute, vous informe, vous oriente.
Alors Françoise, donc il y a un an, la FNSF décide de se saisir de ce sujet. Pourquoi? Quel était l'intérêt de cette campagne qui est relativement choc? Qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message avant tout?
Dans les violences conjugales, on connaît les violences psychologiques, verbales, physiques, sexuelles. Et il y a deux violences qu'on connaît beaucoup moins, ce sont les violences économiques et les violences administratives, qui sont souvent liées aux autres ou qui peuvent d'ailleurs être avant les autres formes de violences. Et ce sont des violences qui sont très prégnantes et qui freinent le départ des femmes victimes de violences, c'est-à-dire la question de l'autonomie financière, et du contrôle de l'auteur des violences à travers les ressources de sa conjointe sont vraiment extrêmement importantes, Ce qu'on a noté, par exemple, c'est que parmi les femmes qui travaillent et les auteurs de violences, on a un différentiel 2 à 3 fois plus important que dans la population générale, c'est-à-dire qu'on a 40-45% de femmes qui travaillent pour 70% de leurs agresseurs, et avec des ressources limitées, avec la confiscation des ressources, l'interdiction de travailler, les arrêts de travail faits des violences, le surendettement qu'impose souvent l'agresseur, on voit que les femmes restent dans la précarité, que les violences les précarisent, et que c'est vraiment un frein très important à la sortie des violences, mais aussi qui va gréver leur parcours après la séparation.
Donc là, on a vu ce clip assez choc, la campagne que vous avez donc menée il y a un an. Vous vouliez, j'imagine, déjà sensibiliser dans un premier temps, faire entendre et expliquer ce que ça recoupe, qu'est-ce que c'est que des violences économiques. Vous, en tant qu'association qui œuvrait au quotidien auprès des femmes et accompagnait les femmes dans leur parcours de violence, comment vous faites en sorte de les accompagner lorsqu'elles sont victimes de violences économiques ?
Alors, on travaille avec elles déjà sur toutes les autres formes de violence et on va les accompagner aussi à retrouver un emploi, retrouver leur confiance en elles et leur estime de soi, et puis leur permettre de retrouver toute leur autonomie financière. Ça veut dire ouvrir un compte bancaire, par exemple, parce que parfois certaines femmes n'ont même pas de compte bancaire, retrouver leurs aides auprès des services sociaux. Ça peut être par exemple les allocations familiales qui sont parfois directement versées sur le compte de l'agresseur. Leur permettre aussi de se projeter aussi dans une formation, dans un emploi mieux rémunéré, et de les aider aussi à reprendre confiance en elles dans leur capacité à gérer leur budget. Il faut savoir que les femmes souvent sont dans leur domicile avec le paiement du loyer, elles peuvent aussi occuper un logement, elles ne sont pas forcément dans la précarité, et tout d'un coup elles vont devoir quitter le domicile malheureusement avec leurs enfants, se retrouver soit sans hébergement, soit dans le centre d'hébergement, soit auprès de proches. Et c'est vrai que c'est important qu'ensuite, pour la suite de leur parcours, qu'elles puissent aussi disposer de ressources, mais aussi pallier aussi par exemple un surendettement. Ça veut dire déposer plainte pour justement cette confiscation des ressources, ou voire limitation de leur signature dans des emprunts, alors qu'elles ne sont pas au courant. Voilà, et essayer de dénouer aussi les fils de ces violences économiques qui vont les empêcher de pouvoir être autonomes. Et puis un dernier point, par exemple, c'est le non-paiement des pensions alimentaires pour les enfants, qui va aussi gréver aussi leur parcours et les empêcher de pouvoir avoir des ressources pour la suite de leur vie.
Alors, je voulais peut-être
désolée,
vous poser...
Désolée, il y a un écho, donc j'ai un petit peu de mal.
Désolée. Petite question, la ministre déléguée aux droits des femmes, Isabelle Rome, a annoncé la mise en place et le lancement d'un PAC Nouveau Départ. J'imagine que les associations telles que la vôtre ont été associées à cette initiative. Quel est votre regard sur cette proposition ?
Alors, c'est une proposition intéressante. Maintenant, il faut savoir que les associations ont déjà des actions en termes de logement, en termes de soutien financier. Et ce qui serait important pour nous, c'est que ce PAC Nouveau Départ puisse aussi s'appuyer sur les dispositifs existants, que ce soit pas un autre dispositif qui s'articule pas avec ce qui existe déjà. Donc, on a été aussi intéressé par surtout l'aide d'urgence, qui va être mise à disposition des femmes sans condition de ressources, sans d'ailleurs capacité à forcément devoir le rembourser, et puis ensuite de pouvoir justement avoir cette aide d'urgence pendant quelques semaines, voire quelques mois, alors qu'on sait très bien que pour les femmes, souvent elles quittent le domicile sans aucune aide, sans aucun soutien. On les voit arriver avec justement absolument aucune aucune possibilité même de survivre pour leurs besoins fondamentaux. Et donc, on est souvent dans l'obligation de les amener à avoir des tickets services, par exemple, ce qui leur permet d'acheter des besoins de première nécessité. Mais voilà, les associations peuvent pas pallier non plus au manque financier. Et donc, l'importance pour nous aussi, c'est que l'auteur des violences soit aussi impliqué dans le remboursement de cette aide financière.
Merci
beaucoup.
Parce
qu'après, ils sont responsables de cette situation.
Merci beaucoup, Françoise. Vous parliez justement d'autonomie financière, l'importance d'arriver à gérer un budget, etc., etc. Nos autres invités qui sont là ce soir avec nous, je vais les recevoir maintenant en plateau. Donc, il s'agit de Insaf El-Hassini, Héloïse Boll. Je vous invite à nous rejoindre en plateau, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup à toutes les deux d'être présentes ce soir sur le plateau de Backseat. Vous êtes les co-autrices de cet ouvrage intitulé « Aux thunes citoyennes ». C'est quand même un véritable manifeste, on peut en parler, et un guide pratique qui, en fait, permet aux femmes de s'emparer de leur autonomie financière et de faire en sorte justement à être complètement autonome sur ces questions, notamment de budget, etc., etc. Insaf El-Hassini, vous êtes juriste, vous êtes experte en négociation rémunération et vous avez lancé le podcast Ma Juste Valeur qui justement porte sur les négociations et l'argent des femmes au travail. Bonsoir. Héloïse Boll, vous êtes ancienne journaliste économique, rédactrice de la newsletter Prends l'oseille et conseillère financière indépendante et donc vous êtes toutes les deux à l'initiative de cet ouvrage. Aujourd'hui, juste pour un peu dresser un peu le décor, les écarts de patrimoine sont encore très importants entre les hommes et les femmes, plus de 16%, c'est ce dont vous faites état dans le livre. Bien évidemment, les écarts de rémunération demeurent un véritable problème. On relève des écarts de rémunération qui vont en moyenne de 22% entre les femmes et les hommes. Et il y a aussi un point important, c'est les montants des pensions de retraite. Parce que, bon, autant en parler, on est au cœur de l'actualité. Donc, quel est un peu votre regard sur la réforme à venir et le fait qu'aujourd'hui, les pensions de retraite, en général, sont inférieures, le montant est inférieur pour les femmes de 40% par rapport à celle des hommes?
Le regard, c'est un constat et une leçon à tirer en fait, parce que on voit nos mères, nos grand-mères avec effectivement des pensions qui sont considérablement plus basses que celles des hommes. Alors ce chiffre de 40%, il est parlant. Quand on le transforme en euros, c'est 777 euros par mois en moyenne de moins. C'est pas rien, c'est vraiment colossal. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce chiffre de 40%, il vient pas de nulle part, en fait. Il vient de tous les choix ou les décisions un peu subies, malheureusement, qui ont été faites au cours de la vie des femmes, notamment à partir du moment où elles se mettent en couple et à partir du moment où elles ont des enfants. Et où il y a toujours, régulièrement, un des salaires à sacrifier ou un des temps pleins à sacrifier parce que finalement, il y a beaucoup de travail à la maison, il y a un petit dernier qui demande plus d'attention que les autres, etc. Très, très souvent, ce sont les femmes qui prennent cette décision, en tout cas, ce sont elles qui subissent ce besoin de temps et d'attention supplémentaire. C'est pas toujours des décisions pleinement prises de plein gré et de plein cœur. Mais en fait, le temps partiel, suivre un mari ou un partenaire de PACS à l'étranger ou même dans une autre ville et donc renoncer à un job qu'on a déjà installé, etc. Tout ça, ça a des répercussions financières sur les revenus immédiats qu'on a, mais aussi sur les revenus futurs et notamment sur les cotisations de retraite. Donc on cotise moins, on cotise sur une base plus petite, on cotise parfois moins longtemps quand on a eu des arrêts, des grosses interruptions de travail, on se retrouve avec un... Évidemment, on cotise sur des salaires de toute façon qui, à la base, sont aussi plus bas. Donc, on se retrouve avec toutes ces petites différences mises bout à bout et ces choix, ces non-choix, ces décisions qui ont eu des impacts qui ne sont pas toujours si visibles au départ, parce que quand on est en couple, finalement, tout est un peu mélangé, le revenu global, on s'arrange, etc. Et bien, en réalité, ça a une influence et une incidence colossale sur les revenus financiers des femmes à la retraite et donc sur leur sécurité financière et sur leur capacité à partir et à être autonome.
Et ce qui est assez intéressant dans votre ouvrage, donc après je vous laisserai peut-être le présenter davantage, mais moi ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en fait, vous partez un peu du postulat, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait aussi Titu Lecoq dans son dernier ouvrage sur le couple et l'argent, que les femmes sont peu éduquées à la question de l'argent. Il y a vraiment un gap entre les garçons et les filles. Et vous dites d'ailleurs, à l'école, on vous apprend un métier, mais on ne vous apprend pas à négocier votre salaire, on ne vous apprend pas à être autonome sur la gestion de son budget au quotidien, etc. Donc vous, vous aviez envie, est-ce que j'imagine que c'est un peu ce qui vous a poussé à écrire ce livre, de donner des outils très concrets, parce que votre livre est vraiment très concret, avec des petits tableaux, etc., des questions, pour vraiment se poser la question de à ce moment-là, je vais postuler un nouveau job, quelles sont les questions qu'il va falloir que je pose, comment je dois rédiger le mail. Enfin, c'est vraiment très pratique, donc très intéressant. En fait, c'est quoi la volonté de base ?
En fait, avec Héloïse, on a eu cette envie-là d'éduquer les femmes financièrement. Je pense que déjà, dans nos travaux, chacune de notre côté, moi, ma vraie spécialité, c'est l'argent au travail. Héloïse, c'est l'argent dans la sphère privée. Et quand on a voulu écrire ce bouquin à deux, on s'est dit, au lieu d'écrire chacune un bouquin de notre côté sur ces domaines d'activité, pourquoi ne pas le faire à deux et le faire à deux voix ? Et finalement, avoir une bible, un bouquin de référence, idéalement, mais quelque chose, en tout cas, un bouquin où on puisse tout trouver quand on est une femme et qu'on commence sa vie. Parce qu'en réalité, comme vous l'avez dit, quand on va à l'école, l'école nous apprend un métier, on apprend à devenir journaliste, juriste, à faire du marketing, peu importe. On n'apprend pas à négocier son salaire, on n'apprend pas les jeux et les enjeux de pouvoir dans le monde de l'entreprise, on n'apprend pas comment naviguer et louvoyer sa carrière, on sait pas comment faire de passer de salarié à fonctionnaire à freelance ou à entrepreneur, alors qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que les carrières ne sont pas linéaires et qu'on est de plus en plus une génération de slasheurs. Donc, on ne sait pas tout ça. Et du coup, soit on vient d'une famille où l'éducation financière est assez ancrée et finalement, ça se transmet avec l'éducation, soit on vient d'une famille où on n'aborde pas trop ces sujets-là. Mais dans tous les cas, en fait, on est un peu livré à soi-même. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de pouvoir apprendre à négocier son salaire, apprendre comment demander une augmentation de rémunération, savoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou le freelancing, comment faire pour négocier ses tarifs, pour mettre en place sa structure. Et puis ensuite, une fois qu'on a gagné cet argent-là, une rémunération à sa juste valeur, comment on fait pour épargner, faire un budget, etc. Et ça, c'était la partie d'Héloïse.
Merci beaucoup. Je vais en profiter parce que Françoise doit nous quitter dans peu de temps. Françoise, j'imagine que vous devez quand même accueillir ce type d'initiative de manière assez positive. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type d'ouvrage à destination des femmes ? Et en quoi ça peut vous être utile, vous, dans votre travail au quotidien, dans l'accompagnement des femmes victimes de violences ? Il faut que vous enleviez le mute, s'il vous plaît.
Oui, désolée, excusez-moi. Non, je trouve que c'est un ouvrage extrêmement intéressant parce que les femmes sont éduquées à s'occuper des autres dans le care et pas forcément à avoir des perspectives dans leur évolution de carrière, dans les révolutions financières, à devenir vraiment très autonome financièrement. On voit bien que la question aussi qui se pose, c'est dès qu'il y a un enfant, c'est comment les femmes passent à temps partiel et comment elles baissent aussi leurs revenus à partir du moment où il y a les enfants, comment elles sont finalement beaucoup plus en charge finalement de l'éducation des enfants, de tout ce qui va toucher aux enfants et comment finalement elles ne sont pas préparées, y compris au moment de la cohabitation ou du mariage, à se préparer aussi à ces questions d'avoir leur compte bancaire, de pouvoir évoluer aussi au sein même de la sphère privée ou de leur emploi pour justement conserver une activité professionnelle importante et avoir des ressources suffisantes justement parce qu'en cas de séparation, et ça arrive à de nombreuses femmes, pour ne pas avoir des difficultés financières et se retrouver dans la précarité, on sait très bien que après la séparation, les femmes sont beaucoup plus impactées sur le plan financier que les hommes. Et puis évidemment, ça fait partie de notre travail avec les femmes ensuite, lorsqu'elles sont victimes de violences, pour essayer de retrouver cette autonomie financière, comme je l'ai dit, mais aussi de se préparer aussi pour la suite à avoir des ressources et à être beaucoup plus indépendante économiquement.
Merci beaucoup Françoise, merci d'avoir été présente avec nous. À bientôt peut-être sur Backseat
Merci,
Voyeur.
Merci, puis désolé de devoir vous quitter, mais bon,
vous
demain,
en prie, merci
en fait,
d'avoir été là.
39-19, et donc on
et
a
bien, un joyeux anniversaire.
Important à ce sujet. Merci.
Au revoir, merci Au revoir. Beaucoup. Alors, je me tourne à nouveau vers vous, du coup. En quoi cet ouvrage est féministe? S'il l'est.
Ben, il est féministe parce que l'idée c'est de en tout cas d'essayer de donner des clés pour reprendre et revendiquer nos droits économiques qui sont théoriquement qui sont là sur le papier. Hein. En théorie, on a les mêmes droits que tout le monde, on a les mêmes droits que les hommes. On a droit à une rémunération, à notre juste valeur. Bon, bah, on est quand même... malheureusement, le constat est quand même depuis de très longues années qu'on n'y est pas et qu'il y a toujours des écarts de rémunération, y compris à temps de travail égal, qualification égale et poste égal entre les hommes et les femmes. Et puis, on a théoriquement... oui, alors on a le droit d'avoir un compte en banque, mais enfin, le compte en banque, le droit d'avoir un compte en banque, c'est bien, mais si, par ailleurs, on se retrouve dans une situation où les trois quarts du pouvoir économique est concentré dans un couple aux mains des hommes, ouais. aux mains d'un homme, ben, ça va pas non plus. Si on est victime de violences économiques, et ça arrive quels que soient les les milieux sociaux et que finalement on se retrouve dans une situation où les actes de propriété ont été passés au nom de monsieur où on a considéré que on va faire 50-50 même si dans les dépenses même si les deux gagnent pas du tout la même chose etc. Et bien en fait ces droits économiques on a du mal à s'en saisir et puis par ailleurs il y a une réalité économique aussi chez les femmes et chez beaucoup de femmes qui est un manque à gagner en réalité parce que justement en passant à mi-temps ou à temps partiel quand elles le font, en étant considérées comme celles qui doivent le plus régulièrement s'atteler aux tâches ménagères et aux tâches familiales, eh bien elles se font progressivement dépouiller de leur temps et le temps c'est de l'argent et donc en se faisant dépouiller de notre temps de façon incalculable, permanente et comme si c'était un truc qui avait pas de limite, on se fait dépouiller de notre pouvoir économique. Et en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est pas on n'a pas de proposition de loi, malheureusement. Enfin, Marie-Pierre Rixin va beaucoup plus loin que nous. On a bien quelques idées, mais l'idée, c'est déjà de dire. Attention, en fait, dans votre quotidien, même si vous avez tous les droits, la réalité et les organisations que vous prenez et le fait de ne pas aller régulièrement demander des augmentations ou changer de job ou bien négocier vos salaires d'entrée, tout ça vous pénalise énormément. Et donc, saisissez-vous de ces droits-là, revendiquez-les et surtout, n'ayez pas peur d'être désagréable quand vous les revendiquez parce que... quand même, la réponse qu'on nous oppose la plupart du temps, c'est oui, mais enfin, tu pourrais demander gentiment. Mais non, en fait, il y a un moment où il faut arrêter de demander les choses gentiment, en fait. Surtout quand ça concerne nos intérêts économiques. C'est pas, on n'est pas en train de parler de.
Oui, on n'est pas en train de demander, en fait.
On est en train de parler d'un truc qui est vraiment central, vital. Et donc, à un moment, on a le droit de ne pas demander gentiment.
Est-ce que votre initiative, vous la percevez comme un moyen de pallier un peu un échec ? De la part des pouvoirs publics et des politiques publiques en la matière ?
Alors déjà, moi, je pense que, pour revenir un peu à ta question tout à l'heure, déjà, rien, quand t'es une femme, rien du fait de te saisir du sujet de l'argent, c'est féministe. Parce que l'argent, ça a une odeur de soufre. Quand t'es une femme, de manière générale, voilà, c'est un terrain dans lequel tu sais qu'il ne faut pas aller. C'est comme le sexe. Il ne faut pas aller sur le terrain de l'argent. Donc déjà, de manière générale, quand t'es une femme ou quand vous êtes des femmes et que vous vous saisissez du sujet de l'argent, déjà rien que ça, c'est un acte féministe et c'est aussi un acte politique. Et pour du coup revenir à ta question, est-ce que il y a une défaillance des pouvoirs publics ? Bah, on est dans une société patriarcale, Léa.
C'est vrai.
Donc quel est leur intérêt au final quand
c'est
tu
bien
regardes
de le rappeler.
quand tu regardes de près les choses, ouais. Quel serait leur intérêt de changer les choses ? Jusqu'ici, on a été une main-d'œuvre qui n'était pas du tout chère. On est cheap. On nous oppose. On dit souvent les femmes ne négocient pas. Les femmes négocient beaucoup, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'elles sont pas accueillies de la même manière. Et du coup, si tu veux que ce soit dans l'éducation dès le plus jeune âge, et on le dit dans le bouquin, on est dressé un petit peu comme des chiots où on préfère des tapes dans le dos plutôt que des euros. Donc, si tu veux, et quand on commence à revendiquer nos droits, on nous dit qu'on est hystérique, on nous dit qu'on n'est pas facile, et surtout, très souvent, il y a vraiment des représailles quand tu es dans le monde de l'entreprise. Donc, vraiment, je pense que, de manière générale, on est dans une société patriarcale. Ce n'est l'intérêt de personne, pour l'instant, de faire de la place, mais c'est pas grave, on a notre chaise pliante, et on est là, et on va venir à la table, et reprendre le pouvoir sur son argent, c'est reprendre aussi le pouvoir sur le pouvoir décisionnaire et directionnel de notre société. Quand on est une femme et qu'on veut changer vraiment les choses, mais même quand on est un homme, laisser un peu sa place, c'est aussi envisager quelque chose d'autre pour notre société.
Dans votre ouvrage, vous placez un niveau macro, hein, pour parler vraiment du problème de l'inégalité, des inégalités de genre face à l'argent. Est-ce que c'est aussi vos expériences personnelles qui vous ont poussé à vous intéresser à ce sujet et à vraiment en faire un combat ?
Alors moi j'ai une expérience personnelle sur la négociation de salaire qui est je pense à peu près qui est tout aussi désastreuse que celle de la plupart des femmes. Je dis toujours que j'ai rencontré INSEF beaucoup trop tard dans ma vie. J'ai heureusement une expérience personnelle sur la gestion des finances qui est beaucoup moins calamiteuse et où j'ai jamais été victime de violences économiques. Ça s'est bien passé, etc. Sauf que depuis longtemps, j'observe quand même certaines disparités et certaines vraies inégalités. Les chiffres, on les connaît depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a plus de travaux et des choses plus détaillées, mais les chiffres, ils sont pas nouveaux. Ce qui est nouveau pour moi, c'est que je me suis installée à mon compte depuis 4 ans. Et que je conseille beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, et que je vois à mon bureau des témoignages et des situations qui sont d'une injustice criante, qui sont parfois effrayantes parce que y a malheureusement pas trop de retour en arrière financier possible, et qu'il y a des situations sur lesquelles il faut vraiment alerter, et plus je vois de femmes venir avec des sujets compliqués, alors elles ne viennent pas toutes avec des sujets compliqués, heureusement, hein, mais plus j'ai envie d'en parler et de dire attention, cette situation-là est une zone de danger, cette situation-là est une zone de danger, cet argument-là entendu chez vous, avec vos pères, avec vos frères, de temps en temps, ce sont les pères aussi et les frères qui peuvent avoir une espèce de mainmise et d'emprise sur la façon dont une femme peut gérer ses finances, avec notamment des histoires d'entreprises familiales, etc. Tout ça est vraiment très très alarmant.
Oui, bien sûr.
En fait,
malheureusement, on arrive déjà à la fin de cette interview. On aurait encore plein de choses à se dire. Peut-être un mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire ce soir à ces femmes qui peut-être nous regardent et ont envie de se saisir de leur autonomie financière et de se sortir peut-être d'une mainmise, d'une emprise telle qu'on est en train de la décrire?
J'ai envie de leur dire que elles ont un pouvoir financier. Elles ont tendance, on a tendance, parce qu'on a été éduqués comme ça, d'abandonner ce pouvoir-là à nos pères, à nos frères, aux recruteurs, aux employeurs, à laisser quelqu'un d'autre décider de notre juste valeur, décider de la manière dont on va dépenser nos sous, ne serait-ce que des 10 euros qu'on a gagnés au tac au tac quand on a fait un jeu de grattage. Et j'ai envie de leur dire, saisissez-vous de ce pouvoir-là, il vous appartient, ne l'abandonnez pas aussi facilement. Il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner, pour vous apprendre à le faire. Et j'ai juste envie aussi de leur dire, pour terminer, aux thunes citoyennes.
Aux thunes citoyennes, donc publiée aux éditions Alizio. Merci beaucoup. Merci beaucoup.